écoutez Radio Campus Tour, il est 18h passé de 13 minutes quasiment et vous écoutez Sortez, la quotidienne socio-culturelle. Pour commencer cette émission, eh bien chers auditeurs, nous allons écouter une chronique de Marie Aimé que vous avez déjà entendue à plusieurs reprises dans Sortez, notre étudiante qui est partie en Erasmus à l'autre bout de l'Europe, mais vous voyez, elle continue de nous envoyer ses contributions. Alors, tout de suite, laissons la place à Marie Aimé pour sa chronique politique internationale. On se retrouve tout de suite après.
Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Radio Campus. Ça fait un mois que j'ai pas fait de chronique, mais aujourd'hui, je suis de retour avec trois petites actualités mondiales que je vous ai préparées. Alors, pour la première information, je vous emmène dans un pays d'Amérique du Sud qui est touché en ce moment par la plus grande crise économique et sociale de son histoire contemporaine, c'est le Venezuela. Ce pays est situé au nord-est de l'Amérique du Sud, juste au-dessus du Brésil et à droite de la Colombie. Alors, pour remettre un peu dans le contexte cette crise économique et sociale, il faut savoir que déjà, le Venezuela subit depuis 2014 cette grave crise. Pourquoi 2014? Car en fait, en 2014, il y a eu une chute du prix du baril de pétrole. Et sachant que l'économie vénézuélienne reposait sur 90% de son exportation en pétrole, voilà, ça l'a pas fait. Donc, suite à cet événement, le gouvernement a souhaité imprimer des billets pour répondre au problème, mais ça crée juste une hyperinflation, ce qui signifie que la monnaie du pays ne vaut plus rien du tout. Par exemple, un kilo de farine qui valait 10 bolivars en 2014 vaut aujourd'hui 5000 bolivars, le bolivar étant la monnaie locale. Donc, à côté de cela, les Vénézuéliens ont un accès très restreint aux produits alimentaires et aux médicaments. Pour faire face à ces gros problèmes sociaux, ils migrent en majorité vers les pays voisins comme la Colombie ou le Pérou. Aujourd'hui, environ 10% de la population a fui le pays. Mais ce qui a aussi accentué la grave crise économique, c'est la sphère politique du pays qui est accusée de corruption. Nicolas Maduro, président du pays depuis 2013, est accusé d'avoir truqué les élections de son deuxième mandat en mai 2018. Son deuxième mandat n'est donc aujourd'hui pas reconnu par la majorité des pays internationaux et aussi d'une grande partie de la population vénézuélienne. Depuis quelques jours, de nombreuses manifestations anti-Maduro ont eu lieu dans le pays, notamment dans la capitale à Caracas. Alors, ces manifestations ont débuté suite à une vidéo mise en ligne par des militaires qui appelaient la population à se rebeller contre le président Maduro. Hier, grande première, le président du Parlement vénézuélien, qui s'appelle Juan Guaido, s'est autoproclamé chef de l'État par intérim. Alors, le Parlement vénézuélien, pour savoir, il est quand même contrôlé par des figures opposées à Maduro. Donc devant des milliers de partisans, Juan Guaido s'est exprimé ainsi. « Je jure d'assumer formellement les compétences de l'exécutif national comme président en exercice du Venezuela pour parvenir à un gouvernement de transition et obtenir des élections libres. » Selon le journal Le Monde, c'est une figure encore inconnue. Il y a quelques mois, il est devenu président du Parlement vénézuélien. Donc face à cette autoproclamation, de nombreux chefs d'État et d'institutions ont réagi. Donald Trump l'a aussitôt reconnu officiellement. Voici un de ses tweets. « Le peuple du Venezuela a courageusement parlé contre Maduro et son régime. Je continuerai à utiliser toute la puissance économique et diplomatique des États-Unis pour faire pression en faveur du rétablissement de la démocratie vénézuélienne. Quant à l'Union européenne, le Brésil, le Canada et de nombreux pays d'Amérique du Sud et latine soutiennent aussi cette candidature. D'autres pays, au contraire, la réfutent, notamment la Turquie avec le président Erdogan, encore Cuba avec le président Díaz-Canel ou la Russie qui dénonce une usurpation du pouvoir et une violation des lois. Le climat est donc explosif au Venezuela. En effet, même si une majorité de la population est contre Maduro, une autre partie le soutient. Il faut savoir que les manifestations peuvent à tout moment dériver et provoquer des accidents mortels, comme en 2017 où plus de 150 manifestations avaient été tuées, et en partie par l'armée vénézuélienne. Voilà, maintenant nous allons passer à une autre actualité. Je vous emmène sur le continent africain et on va parler de bijoux. Alors, l'entrepreneuse Aminata Ndiaye dénonce dans le journal Le Monde les contrefaçons de bijoux chinois sur le continent africain. Donc, Aminata Ndiaye est une femme engagée dans le développement de l'artisanat en Afrique. Elle est fondatrice de la boutique en ligne Ikaya Mossi, qui propose des magnifiques bijoux. Elle explique comment, à Nairobi, la capitale du Kenya, plusieurs personnes de nationalité chinoise ont ouvert des magasins proposant les mêmes bijoux que ceux fabriqués par les artisans kenyans. Bien sûr, ils proposent les bijoux à des prix beaucoup moins élevés, et ces bijoux, en apparence, ressemblent à ceux des artisans, mais en réalité, ils sont beaucoup plus légers, plus fragiles et de moins bonne qualité. Un des artisans kenyans, Tom, raconte « Il y a quelques mois, une chinoise m'a acheté une dizaine de bijoux. Je pensais que c'était une touriste et je lui ai fait un bon prix et je lui ai même donné un cadeau. Quelques semaines plus tard, elle a ouvert un magasin au coin de la rue et j'y ai retrouvé quelques-unes de mes créations. » Le cas de Tom n'est pas isolé, c'est ce que dit l'entrepreneuse Aminata Ndiaye qui montre l'étendue de cette pratique sur tout le continent et notamment en Afrique du Sud. Donc voilà, vous avez bien compris, si vous avez prévu de faire un petit peu de tourisme en Afrique et d'acheter des bijoux, faites attention à ce que vous achetez, et pensez surtout au commerce des artisans locaux. Voilà pour cette deuxième information. La troisième actualité, elle est courte, hein. Mais bon, elle est intéressante car je pense qu'elle a été passée à la trappe par pas mal de quotidiens français. Donc je l'ai trouvée sur BBC News. Donc je vais vous emmener en Asie, en Malaisie. Alors la Malaisie, c'est quoi ? Donc c'est un pays assez particulier car il possède deux territoires séparés par la mer. Un de ces territoires est en dessous de la Thaïlande et l'autre au-dessus de l'Indonésie. Depuis son indépendance du Royaume-Uni en 1957, l'Indonésie a une monarchie parlementaire fédérale. C'est donc un sultan ou un souverain suprême qui gouverne le pays pour un mandat de 5 ans. Bien entendu, ce sultan n'est pas élu par l'ensemble des 30 millions de Malaisiens, mais seulement par le Conseil des sultans composé de 9 personnes, dont le sultan lui-même. Le 7 janvier dernier, Mohamed V, qui était désigné comme le sultan du pays, a abdiqué, ça faisait 2 ans qu'il régnait. Donc hier, selon le tabloïd BBC News, le nouveau sultan a été désigné et il s'appelle Abdullah of Pahang. Voilà, donc c'est tout pour les 3 informations du jour. Je vous souhaite une bonne soirée sur Radio Campus. Et à la semaine prochaine pour 3 actualités éclairantes.
Eh bien, merci à toi, Marie-Aimée, de nous envoyer ces chroniques pour déchiffrer l'actualité internationale depuis ton lointain pays où tu poursuis tes études dans le cadre d'un échange Erasmus. Et oui, la radio permet ça aussi. Et nous allons tout de suite faire une pause musicale. Nous allons écouter Marcio Faraco. On va écouter Cajuero Neguinha, c'est parti. Enfin, c'est presque parti. Voilà.
Papa, parabaraba. Papa, parabaraba. Na minha infância, um cajueiro, uma mangueira, um pé de sapoti. Final de tarde dava morcego que acordava pra comer ali. Tinha coqueiro no mato, tinha cajá, agora tem condomínio lá. Tinha coqueiro no mato, tinha cajá, agora tem condomínio lá. Padavadava. Papá. Padavadava. Eu lembro tudo, lembro até da pimenteira, da pitombeira, carambola, siriguela, o bambuzal, a bicharada que aparecia, trazida pela enchente do canal. E era cobra, caramujo, caranguejo demais, agora tem condomínio lá. Tinha coqueiro no mato, tinha cajá, agora tem condomínio lá. Padabadaba. Papá. badabada, construir um shopping center no meio da minha memória, aterrar os guaiabuns, apagaram minha história. Hoje parece mentira, tinha um pé de fruta-pão ali naquele deserto de dar dó no coração. Tinha coqueiro no mato, tinha cajá, agora tem condomínio lá. Tinha coqueiro no mato, tinha cajá, agora tem condomínio lá. Padabadabá, papá, padabadá, papá, padabadabá, papá, padabadá.
Marcio Faraco sur Radio Campus Tour, vous écoutez Sortez et vous écoutiez Cajouero. Eh bien, maintenant, il est temps d'écouter un petit retour sur notre émission à trois radios. Oui, nous étions en effet Radio Active, Radio Campus et Radio Béton sur le festival Désir Désir, jeudi dernier, pour une émission spéciale de 2h30. Voilà, émission diffusée en direct en même temps sur nos trois radios. Et je vous propose de réécouter une des nombreuses interviews qui a été réalisée à cette occasion. Interview que vous pouvez retrouver intégralement sur notre site www.radiocampustour.com. Je vous propose de réécouter l'interview de au sujet de la journée d'études, la question LGBTQI. Dans les séries Journée d'études qui aura lieu vendredi prochain au 5e étage de la bibliothèque des Tanneurs. Voilà, nous réaliserons des captations des interventions qui auront lieu à l'occasion de cette journée d'études en vue d'une rediffusion prochaine sur nos ondes. Je laisse la parole à Grégoire Albou.
De retour, qui n'est pas très sympa.
Festival, Désir voulait beaucoup qu'on parle de banalisation, spontanément ils nous ont parlé de Plus belle la vie, bon c'est vrai c'est des choses très importantes, mais ce que je crois et ce qui me fait vraiment très plaisir là dans ce qu'on a là, c'est qu'il y a un mélange, on peut y revenir après, de films d'auteurs et de films de séries cultes, on va parler aussi un tout petit peu de cinéma, mais aussi de télévision grand public. Et je suis très très frappé par ce qu'a dit Jonas tout à l'heure en parlant de France 3, où la responsable des programmes voulait donc un personnage trans depuis 4 ans. Et ça, je trouve que c'est un énorme progrès d'entendre ça. Moi, j'ai travaillé toute une partie de ma vie dans ces organismes-là, avant d'être prof. Et il y a un travail qui est fait de pionnier presque, hein, au quotidien, de tests, de compromis avec les audiences. Il y a une intuition d'un côté, il y a une demande de l'autre, tout ça se retrouve. Ça progresse comme ça peut, mais là, c'était très intéressant ce qui était dit par Jonas. Et on va avoir des choses sur Dynastie, sur, vous voyez, des vieilles séries.
Alors, peut-être on peut passer en revue assez rapidement cette programmation pour allécher nos auditeurs, hein, quand même, rappelons-le, cette journée d'études qui aura lieu le 1er février 2019 au Tanneurs. Voilà, 5e étage de la bibliothèque universitaire. Donc ça commence à 9h30 et c'est Concetta Penuto, Elisabeth Gavoil et vous-même qui ouvrez le bal. Donc Concetta Penuto, on peut rappeler que c'est la chargée de mission égalité de l'université de Tours. Alors.
Et ils nous ont bien aidés.
Oui.
Donc je suis content que vous en parliez parce qu'il faut remercier Concetta et bon, il y a eu beaucoup de lois, hein, qui ont été votées, et dans la perspective de ces lois sur l'égalité, la parité, etc., les universités, et en particulier à Tours, se sont lancées dans un développement justement de promotion et de lutte, ça dépend le terme que vous voulez employer, pour l'égalité et aussi le handicap. Et l'idée de cette mission-là, c'est vraiment de prévoir et essayer d'empêcher les discriminations, les stéréotypes et aussi les violences. Et ils ont un programme que je trouve très, très bien fait. Et c'est important, je trouve, qu'à l'université, on s'occupe de ça aujourd'hui et que surtout on le formalise. On le formalise par écrit et puis qu'on ait des programmes. Et j'en profite parce qu'il ne faut pas oublier de le dire, qu'il y a une semaine de l'égalité organisée par l'Université de Tours, la semaine du 4 avril.
Voilà, notez ça dans vos agendas. Alors Grégoire Albou, est-ce que vous voulez nous déplier un peu ce programme de 10h à 12h? Là, on voit qu'il y a déjà 1, 2, 3, 4 intervenants. Qu'est-ce qui va se passer?
Alors, on a réparti la journée en deux thèmes, le matin et l'après-midi. On construit ça à partir des propositions qui nous arrivent. C'est ça que je trouve ça très intéressant. Et on n'est pas en train de donner des directives, donc c'est assez ouvert. C'est ça qui est bien dans ce genre d'exercice. Et donc, le matin, on va être en train de parler surtout d'auteurs, de politique de représentation et un petit peu de théorie queer. Donc c'est un parti un peu plus théorique. On a Anne Crémieux qui est une spécialiste de la représentation des minorités qui va nous parler de la série Sensuite et d'un militantisme nourri de théorie queer. Alors ne me posez pas de questions sur Sensuite parce que je ne suis pas un spécialiste. Donc je ne sais pas comment c'est nourri de théorie queer, mais ce que je sais en revanche, c'est que si vous croisez différents critères comme série web, série queer, vous avez le militantisme, la théorie qui aujourd'hui devient sujet de fiction, comme dans Les Engagés, par exemple. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant et il faut regarder comment ça se passe. Hein, voilà. Après, vous avez ma star américaine, parce qu'il en faut toujours une, c'est Nick Davis, que j'ai rencontré dans le cadre d'organisations internationales sur le cinéma. Il enseigne à l'Université de Chicago à Northwestern et il va parler... Et ça, c'est très, très intéressant aussi, d'un réalisateur coréen qui s'appelle Andrew Han et qui fait à la fois de la série et du cinéma. Et il va un peu questionner ses ambiguïtés en tant qu'auteur. Bon, donc, je ne sais pas si vous avez vu, moi, je ne les ai pas vues, mais en tout cas, j'ai regardé les réceptions qu'elles avaient eues. Il a fait un film qui s'appelle Spa Night, littéralement la nuit du spa, qui est assez hard, j'ai l'impression. Et puis, cette série de 2018, This Close. Et ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que quand vous parlez de cinéma ou de séries LGBT, la notion d'auteur, je pense, est absolument essentielle. Parce qu'il y a une intention, il y a une volonté, il y a une personnalité. Encore une fois, j'ai été très frappé par l'intervention de Jonas juste avant. On sent vraiment des individualités très engagées. Bon, donc ça, c'est intéressant.
Alors, pardon, juste une parenthèse, oui, pour les empêchés linguistiques qui ne parlent pas anglais, est-ce que cette intervention sera traduite ou...
Ben là, on va faire de la haute voltige. Non, ce ne sera pas traduit, mais on va faire un petit résumé avant et un petit résumé après.
Voilà. Bon.
Mais comme maintenant, tous les amateurs de séries, tous mes étudiants regardent des séries sans sous-titres. Donc ça y est, je pense que là, il n'y aura pas de problème. Bon. Et puis, je sais pas, peut-être que Nick nous fera il est francophone, il utilise le subjonctif. On a eu une grande conversation sur le subjonctif, donc je crois qu'il va peut-être nous faire ça en français. Mais bon, on verra.
Et donc, Sarah l'Écossais et vous-même, Grégoire Albou.
Alors, Sarah l'Écossais, c'est intéressant parce que c'est une spécialiste des enquêtes de terrain. C'est un peu une sociologue aussi. Et elle va nous parler des scénaristes. Mmh. Et qu'est-ce que les scénaristes peuvent faire, veulent faire Donc elle a un terrain en ce moment là-dessus, une étude, et donc elle va nous en parler.
Et alors vous, de quoi vous allez parler ?
Alors moi je vais parler de homonormativité et de désaffection des publics dans la série Looking, qui a été détestée, haïe par la communauté gay, et qu'à titre personnel j'ai trouvé fantastiquement romantique et très bien. Donc voilà, c'est une affaire de génération peut-être. Mais en tout cas, c'est l'occasion de parler de Andrew Haig, que je trouve un auteur anglais très très intéressant. C'est lui qui a fait Weekend, qui est sorti en 2006. Récemment, il a réalisé Lean on Pete. Je ne sais pas comment ça a été traduit en français. Ça a été accueilli avec un peu de scandale. C'est un garçon, enfin c'est un auteur, voilà, c'est un auteur. Et puis il navigue justement entre télévision, série, et là il travaillait dans la série Looking, il était co-showrunner, co-réalisateur, co-scénariste pour cette série de HBO qui donc s'est arrêtée au bout de deux saisons.
Bon, ensuite, bon, quand même, on aura une pause déjeuner, bien sûr, et ensuite, voilà, les festivités reprennent de 14h à 17h, études de cas internationaux, audience, réception. Ah, de quoi sera-t-il question ?
Alors, l'idée, c'était que après l'auteur, la réception, c'est très important dans une série LGBT ou dans toutes les séries qui montrent des publics invisibles, ou en tout cas qui ont une forte demande de visibilité. Donc, déjà le matin, Anne Crémieux, elle, c'est une spécialiste de la réception aussi, elle devrait en toucher un petit mot. À l'après-midi, il y a une intervention double sur Hannibal et les Fannibal. Donc ça, moi, j'ai très, très envie de... J'attends avec impatience ça. Ça peut être la meilleure et la pire des choses, parce que je ne sais pas si vous êtes allé à Comic-Con à San Diego pour voir tous les gens qui font du cosplay, ça peut être terrible. Donc je ne sais pas ce qu'elle va nous montrer comme image. Mais bon, en tout cas, le phénomène des fans, c'est très très important. La réappropriation par les publics, la réinvention de l'œuvre, c'est quelque chose d'important. Et puis on a aussi une doctorante qui va nous parler du coming out dans les séries américaines. Et ça, on l'a programmé notamment en synergie avec le festival Désir Désir. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle travaille en fiction grand public. Hein, on n'est pas dans de la niche, là. Donc ça rejoint un peu la discussion qu'on a eue sur YouTube aujourd'hui. Sauf qu'elle va nous parler de Dynasty, Will and Grace, enfin toutes ces séries-là. Donc c'est quand même des choses intéressantes. Qu'est-ce que le mainstream américain, par exemple, en l'occurrence là, a fait justement pour la visibilité des publics invisibles.
Voilà, donc nous rappelons, chers auditeurs, que cette journée d'études internationales, la question LGBTQ dans les séries étant d'une normalisation et normativité, se tient le 1er février 2019 de 9h30 à 17h. Je reprends mon souffle, 5e étage de la bibliothèque universitaire. Et je crois aussi, Grégoire Albou, que pour vous aider à préparer tout ça, vous avez eu une équipe d'étudiants aussi de l'IUT qui ont travaillé... Voilà, oui. Quel a été leur rôle d'ailleurs à ces étudiantes, peut-être ?
Alors, ce sont des étudiantes de l'option communication dans notre département Infocom. Donc, elles ont fait une chose essentielle, mais pas que. Elles ont choisi la musique. Elle va venir tout à l'heure, donc c'est pas moi, c'est elle. Donc, c'est générationnel.
Oui.
Et puis, elles ont fait toutes les relations avec la presse. Voilà.
Et alors, comment vous leur avez présenté ce projet ? Parce que c'est spécifique quand même. Est-ce qu'elles ont adhéré tout de suite à la thématique ? Ou est-ce que ça se trouvait dans leur parcours d'études ? Et ma foi...
Eh bien, comment dire ? Assez curieusement pour quelqu'un de ma génération, je ne vais pas vous faire l'histoire des années SIDA, c'est extrêmement touchant de voir des étudiants de 20 ans pour qui ça n'est absolument pas un problème. Au contraire, c'est une question très intéressante. Voilà, donc c'est comme ça que je répondrai, et je ne pensais pas qu'un jour je serais ici, pas très loin de la retraite, à faire ce genre d'émission. Voilà.
Voilà, donc vous êtes ravis d'être là.
Très.
Bon, voilà, vous avez entendu.
Et la journée est ouverte à tous.
Et c'est gratuit.
Ah oui, bien sûr.
Voilà, non mais précisons-le, parce qu'il y a peu de choses gratuites quand même en ce bas monde. Donc écoutons la musique choisie par vos étudiantes.
Eh bien non, nous n'écouterons pas la musique choisie par les étudiantes de Grégoire Albou. Chers auditeurs, pour digérer toutes ces informations sur la journée d'études, sur la question LGBTQ dans les séries, je vous propose d'écouter une autre musicienne, une artiste, grande artiste, fantastique artiste locale et féminine, excellente musicienne locale, et je vous propose d'écouter Kate Stone. Alors pardon, parce que du coup c'est pris sur son YouTube, que je vous invite à aller consulter, et elle parle avant.
Look out the window and all I see are plow fields of misery. I wanna get away to the city where the lights shine bright and the boys are pretty. I wanna walk the red carpet out here, the Ritz rapid on my... on Facebook. Shops just for me. I wanna get home by
voilà, la magie ne s'arrête jamais sur Radio Campus Tour, cher auditeur. Tu viens d'écouter un morceau de Kate Stone et c'est en plus, je crois, sa première chanson écrite par ses soins et elle s'accompagne elle-même au ukulélé. La magie ne s'arrête jamais puisque Kate Stone est ici avec nous. Bonsoir.
Bonsoir Mélissa.
Bonsoir, chère artiste locale.
Merci, merci pour ce moment.
Alors, cette chanson, elle s'appelle comment ?
Alors, ça s'appelle Don't Hold Me Back et c'est un des tout premiers morceaux que j'ai écrit du début à la fin parce qu'il y a beaucoup de morceaux que j'ai commencé et après, oh bon, bah, y en a des mieux donc j'ai mis de côté. Donc, celui-là, c'est celui que j'ai vraiment fini et que j'ai fignolé et qui va potentiellement être dans l'EP qui va sortir prochainement. Enfin, prochainement, c'est en cours, on peut dire. Et du coup, ce morceau, je l'ai écrit, je devais avoir quoi 16 ans, je pense, à cette époque. J'étais encore au lycée. Et en fait, j'ai écrit après un voyage à Londres. Et j'ai découvert, c'est la première fois que j'allais à Londres, et j'ai découvert cette ville où il se passait tellement de choses. Et je suis retournée dans la campagne juste après. Et c'était un peu une descente d'émotion, on va dire. Et ce morceau, en gros, parle de vouloir quitter la campagne pour aller à la ville et être une star, voilà.
Et donc, chère star, tu chantes si bien en anglais, c'est parce que tes parents sont britanniques.
C'est ça.
Voilà, et donc, youhou, depuis peu, tu es française.
Oui, 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 depuis, ça fait un mois maintenant, un mois et demi, je crois, ouais.
Voilà, bravo à toi.
Merci.
Et alors, cette chanson, cette première composition, elle date de 2012, donc en plus, il me semblait que tu parlais d'EP. Donc, est-ce que tu veux nous dire un peu tout ce que tu as fait depuis 2012 ?
Alors, j'ai beaucoup écrit. En fait, quand je suis arrivée à la fac, j'ai eu un peu de mal à gérer les deux. En fait, la musique et les cours et tout ça, enfin, c'est un âge assez difficile aussi. Hein. Enfin, on se pose plein de questions, il se passe plein de choses. Donc, on n'a pas forcément, enfin, malheureusement, on n'a pas tout le temps de se consacrer à nos passions. Mais du coup, voilà, j'ai beaucoup écrit, j'ai progressé, je dirais, dans l'écriture et dans la composition de mes morceaux. Et du coup, là, je me sens prête. Enfin, c'est quelque chose que je veux faire depuis vraiment très très longtemps, depuis 2011, hein, depuis même avant, j'ai voulu sortir mon EP, mes morceaux à moi, que tout le monde les entende. Et du coup, je sais pas, là je me sens prête et je pense que c'est le bon moment pour le faire. Après, ça prend beaucoup de temps, plus de temps que ce que je pensais, parce que je fais tout toute seule et avec Mathieu Ruquier aussi qui fait le mixage, etc. Donc là, on a bouclé le premier morceau de l'EP que je vais sortir comme single, on peut dire. Je pense qu'on peut dire ça. Et du coup, voilà, on est sur le mixage actuellement. Donc je pense que prochainement, d'ici deux semaines. Je peux pas donner de date parce que ça avance très lentement, mais sûrement.
Est-ce que tu veux nous dire ce qu'il y aura à écouter sur ce fameux EP pour allécher un peu nos auditeurs quand même ?
Alors, il y aura 4 morceaux, peut-être 5, il y aura peut-être un bonus, ça je sais pas encore, mais en tout cas il y aura 4 morceaux que j'ai écrits, que j'ai composés. C'est des morceaux récents que j'ai écrits il y a pas longtemps, après c'est des plus vieux comme celui qu'on vient d'écouter, que j'ai revisité tout simplement. Donc voilà, le EP s'appelle Kingdom. Le premier morceau s'appelle Kingdom. C'est parti là, en fait, de ce morceau qui parle de reprendre confiance en soi. Et du coup, voilà, c'est un peu l'idée de ce EP. Enfin, pourquoi je le sors, c'est parce que je suis capable de le faire et c'est pour me montrer et pour booster les personnes qui hésitent à faire ce genre de choses. Donc voilà, il y aura 4 morceaux et qu'est-ce que je peux dire d'autre là-dessus ? Non, je peux rien dire. Il y a une super pochette aussi. Vous pouvez voir sur Facebook.
Là, sur le Facebook, la page Kate Stone.
Voilà, c'est ça. Ou Kate Stone Music, si vous tombez sur la dame qui joue du hang, je crois que ça s'appelle.
Ouais, c'est ça. Et alors, en fait, Kate, on te voit là, donc dans la chanson qu'on a écoutée, tu joues du ukulélé, je crois, mais tu t'accompagnes aussi à la guitare.
C'est ça.
Voilà, est-ce que tu joues d'autres instruments ?
Alors non, j'ai commencé la guitare quand j'avais 12 ans. C'est le premier instrument que j'ai appris à jouer. Après, le ukulélé, c'est arrivé, c'est assez facile quand on sait jouer de la guitare, on apprend vite le ukulélé après. Après, j'essaye de faire quelques notes au piano, j'ai écrit quelques morceaux comme ça, mais je suis pas du tout un génie du piano ou quoi que ce soit. Juste, si je le, enfin, ça vient de l'intérieur en fait. Si je trouve les notes et je fais, enfin, j'adapte ma voix aux notes et ça se passe comme ça en fait. C'est pas, enfin, je connais pas les notes, je sais pas où elles sont. C'est juste, je joue et si ça sonne bon, j'arrive à trouver quelque chose avec ma voix et c'est comme ça que ça se passe. Mais je suis beaucoup plus à l'aise à la guitare que le reste et au ukulélé, mais le piano un tout petit peu quoi. Et c'est tout.
Et sinon, est-ce que tu as fait un travail sur ta voix ? Est-ce que tu as appris à chanter ou est-ce que tu as toujours chanté ?
Non, j'ai toujours chanté, j'ai appris toute seule quoi. Je commençais à chanter parce que j'ai trouvé des, Enfin, ça a débuté sur YouTube, en fait. C'est ma chaîne, elle date de 2009. Donc, il y avait des vidéos avant ça aussi où je faisais des reprises du style Anna Montana, des trucs un peu Disney. Mais je les ai effacées, ces vidéos. Hein. Tu les trouveras pas. Hein.
Ah,
je te vois. Hein. donc, j'ai plus ces vidéos, mais ça a commencé comme ça parce que j'ai vu d'autres filles de mon âge qui faisaient de la musique, qui chantaient. Et puis, je me suis dit, bah, pourquoi pas, moi, j'aime chanter. Donc, j'ai commencé à faire des vidéos. Et puis, mes parents, ils m'ont entendu chanter un jour et puis ils m'ont dit, bah, au final, c'est pas si mal que ça, donc tu devrais continuer. Donc là, j'ai commencé à avoir des cours de guitare et j'ai rencontré un super monsieur, c'est mon prof de guitare pendant très longtemps. Il était anglais, il a déménagé, il est parti, je sais pas, en 2011, je pense, ouais. Il est parti en Angleterre, mais il était vraiment super encourageant et c'est lui qui m'a un peu donné des pistes pour ma voix, mais j'ai jamais eu de coaching professionnel ou quoi que ce soit. C'est juste si... Enfin, je le sais, et puis je pense qu'on me le dirait. Enfin, j'espère qu'on me le dirait si c'était à côté de la plaque, mais bon, voilà.
Donc, c'est quand même aussi fort, là, le message que tu disais, enfin, ce que tu disais tout à l'heure, pardon, j'essaie de parler français. C'est de dire aussi que c'est un message d'encouragement, un message positif pour les gens qui n'osent pas se lancer à faire des choses. Voilà, est-ce que tu as envie d'être comme ça, un personnage positif qui a...
Bah oui, bien sûr, je veux encourager toute personne qui n'ose pas ou qui est trop... critique sur son travail, c'est quelque chose que j'ai eu beaucoup de mal avec. À chaque fois que je faisais quelque chose, je me disais bon, ben c'est pas aussi bien que machin, mais en fait, faut juste arrêter de se comparer et faut faire ce que nous on peut faire au mieux et faut croire en soi quoi. Donc oui, je veux absolument transmettre ce message et surtout aux personnes qui ont commencé comme moi à 11 ans et qui sont timides et qui osent pas et qui savent pas trop, que voilà, faut juste avoir confiance en soi et surtout ne pas arrêter. Ça, c'est un de mes plus gros regret, c'est d'avoir fait une espèce de pause où je faisais plus vraiment de musique, où je savais plus trop dans quelle direction je voulais aller, enfin j'étais un peu perdue. Et faut surtout pas se laisser partir à la dérive comme ça, faut s'accrocher. Et si on y croit, on peut y arriver. Enfin, oui, c'est très positif tout ça, mais c'est vrai, dans n'importe quel domaine en plus.
Voilà, et alors, voilà, est-ce que tu es une artiste locale? Est-ce que tu as envie aussi peut-être d'encourager encore plus les femmes à...
Alors oui, mais ça tu le sais, Mélissa, absolument.
Oui, mais je fais semblant de ne pas le savoir.
Absolument, je pense que sur la scène locale tourangelle, de ce que j'ai vu pour le moment, j'ai l'impression qu'il manque quand même des figures féminines, que ce soit dans le soul, le jazz... Enfin, il y en a, hein, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais je pense que oui, il faut oser, il faut... Enfin, je dis ça, mais moi, il me tarde encore d'aller à une scène ouverte.
À bon entendeur, inviter Kate Stone.
Voilà, mais ça, c'est un projet avec Mathias, j'espère qu'on va mener à bout. Mais oui, surtout aux femmes qui, je sais pas, qui hésitent, qui ont peur du regard de l'autre. Enfin, non, il ne faut surtout pas, il faut foncer et faut envahir la scène musicale, ça, à 100%.
Eh bien Kate, merci beaucoup à toi.
Bah, merci Mélissa.
On attend avec impatience et gourmandise ton futur EP et je propose qu'on écoute comment dire, la dernière vidéo que tu as mis en ligne sur ton, sur ton YouTube.
Alors,
et,
ça,
et c'est quoi alors ça?
Ça c'est une reprise d'Ariana Grande.
Aha.
Et oui. Et du coup, c'est pas du tout le genre le style de musique qui me parle le plus et que moi je... Enfin, qui m'inspire, mais je trouve que le message, en fait, dans ce morceau est vraiment très, 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 très fort. Et en fait, le morceau s'appelle Thank You Next, et c'est en gros, elle a fait un morceau, c'est un hommage à tous les hommes avec qui qu'elle a connu, etc. Et c'est pas méchant du tout, c'est vraiment merci pour tout ce que vous m'avez appris, merci, grâce à vous, je suis devenue quelqu'un de plus forte, etc. Enfin, je trouve ça vraiment très, très, très beau. Pour une fois, c'est pas oh, t'as fait ça, je te déteste, hein. C'est un message positif, et je trouve qu'elle est vraiment, enfin, Ariana Grande, en tout cas en tant que personne, elle est très positive et elle a un beau message à faire passer. Donc c'est pour ça que j'ai repris ce morceau.
Alors nous allons écouter ta reprise de Ariana Grande. Kate, merci à toi. Kate Stone.
Merci Mélissa.
On te retrouve, donc on le rappelle, sur Facebook, Kate Stone Music. Pardon,
c'est ça.
C'est ça. Sur ta chaîne YouTube qui s'appelle sûrement pareil, non?
Kate Stone, ouais, mais il faut juste mettre un 12 à la fin parce que sinon on tombe sur le hang.
Voilà, notre Kate Stone, mais bon. Donc voilà, on écoute ta reprise. C'est parti.
Thought I'd end up with Sean, but it wasn't a match. Wrote some songs about Ricky, now I listen and laugh. Even almost got married, And for Pete, I'm so thankful. Wish I could say thank you to Malcolm, 'cause he was an angel. One taught me love, one taught me patience, one taught me pain. Now I'm so amazing. I've loved and I've lost, but that's not what I see. Look what I got, look what you taught me. And for that I say thank you. Next, thank you. Next, thank you. Next, I'm so fucking grateful for my ex. Thank you. Next, thank you. Next, thank you. Next, I'm so fucking spend more time with my friends. I ain't worried about nothing. Plus I met someone else, we're having better discussions. I know they say I move on too fast, but this won't go on last, 'cause her name is Ari, and I'm so good with that. She taught me love, she taught me patience, she handles pain. That shit's amazing. I've loved and I've lost, that's not what I see. Look what I've got, ain't no need for searching. And for that I say thank you. Next, thank you. Next, thank you. Next, I'm so fucking grateful for my ex. Thank you. Next, thank you. Next, thank you. Next, I'm so fucking. One day I walk down the aisle, holding hands with my mama. I'll be thanking my dad, 'cause she grew from the drama. I only wanna do it once real bad, gon' make that shit last. God forbid something happens, at least this song is a smash. I've got so much love, I've got so much patience. I've learned from the pain. I'm so amazing. I've loved and I've lost, but that's not what I see. Look what I got, ain't no need for searching. And for that I say thank you. Next, thank you. Next, thank you. Next, I'm so fucking grateful for my ex. Thank you. Next, thank you. Next, thank you. Next, I'm so fucking grateful for my ex. Thank you. Next, 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 I'm so fucking grateful for my ex.